Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Si c'était une plante, serait-ce une orchidée, une azalée, un soleil, une ortie, une lavande, un chêne, un platane, une tubéruse ou un chien-dent? La liste pourrait être longue, bien sûr. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère, en tout cas, qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Bruno Patineau, vous êtes directeur éditorial, c'est le mot de la chaîne Arte, et vous avez sorti chez Grasset La civilisation du poisson rouge, petit traité de l'attention. Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
Quentin Jardon, vous venez de Belgique, vous êtes journaliste et vous avez publié chez Gallimard un récit assez marquant, Alexandria. Bonjour Quentin Jardon.
Bonjour.
Il faut dire qu'avec Bruno Patineau et Quentin Jardon, on met le web sur le grill. 30 ans après sa création, que reste-t-il de nos amours virtuels? Magnéto, Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Bruno Patineau, vous connaissiez Quentin Jardon? Je crois que vous l'avez lu.
Ah, je l'ai lu, mais je l'ai lu hier, pour être très franc avec vous.
Bah, mieux vaut tard que jamais.
Faut être prêt au bon moment, et bah, je l'ai lu avec intérêt et passion.
Ah bah tant mieux.
Et j'ai même découvert, enfin on en parlera j'imagine, mais j'ai découvert un personnage dont j'avais peut-être lu le nom, mais qui ne me disait rien,
bien
et qui
sûr.
Est central dans ce livre.
Tout à fait, Robert Caillaux, l'autre
Exactement.
Fondateur du web, on va en parler dans quelques instants. Et vous, Quentin Jardon, vous saviez qui est Bruno Patineau? Parce que vu de Belgique...
J'ai beaucoup entendu parler de la civilisation du poisson rouge ces dernières semaines.
Ouais.
Du coup, je l'ai acheté je ne l'avais pas commencé. C'est seulement après l'avoir acheté que j'ai appris que Bruno Patineau serait l'invité
et
de
donc,
cette
du
émission
coup,
avec moi. Donc, grande surprise et grand plaisir. Et du coup, je l'ai lu, évidemment.
Eh bah oui, c'est ça. C'est
voilà,
la question que j'allais
je l'ai avancé
poser.
Dans ma liste.
Parce que
des
moi, parfois, j'achète un livre, je le mets de côté, puis je le lis six
mois
plus tard.
Il est en troisième ou quatrième position, il est passé en première, direct.
Ah oui, d'accord.
Quelle
ça vous
remontée.
A plu
énormément, vraiment.
Alors, votre point commun à tous les deux, bien sûr, c'est Internet, ou plus précisément, c'est le web. Vous savez sans doute qu'en 2019, le fameux World Wide Web fête ses 30 ans. On peut dire donc que le web, tel que nous connaissons tous, des milliards de personnes le connaissent, a été inventé en 1989, ce qui lui fait finalement une existence assez brève, mais quand même conséquente. Bruno Patineau, tous les médias du monde considèrent qu'on est entré au 21e siècle dans une ère nouvelle marquée par la numérisation généralisée. Et vous vous dites, attention, on est en train de se planter.
Oui, en fait, je pense que, paradoxalement, le poisson rouge arrive après le récit de Quentin, en fait, après Alexandria, même si c'est la suite. C'est que, en gros, comme vous le dites, c'est 30 ans de web et un peu moins d'Internet d'information, puisque pour l'Internet d'information et l'Internet, on va dire, des contenus qu'on connaît tous, il a fallu attendre la popularisation des navigateurs, donc plutôt le début des années 90, voire le milieu des années 90. Et 30 ans après, mon petit livre, Le Poisson Rouge, essaye de dire juste...
La civilisation du poisson
oui,
rouge.
Oui, la civilisation du poisson rouge essaie juste de dire ou de poser des mots sur un ressenti, c'est que nos rêves, nos utopies ou ce qu'on imaginait comme lendemain extraordinaire ne ressemblent peut-être pas...
Les lendemains
ce que l'on vit
pas.
Aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on s'était imaginé.
Vous avez...
Et ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a là un système économique, effectivement, un système de l'attention... qui a fait sortir tout ça de sa route.
Vous écrivez dans votre livre « L'infini nous était promis, il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait de limite que celle du génie humain, et au lieu de quoi nous sommes devenus des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans. »
Oui, en fait, c'est une constatation sur ce que l'on vit tous et ce que vivent nos proches. C'est-à-dire qu'on se voit tous penchés sur les smartphones, dépendants des écrans. Et ce mécanisme de dépendance individuelle et aussi ce mécanisme de polarisation collective, eh bien, c'est pas un produit du hasard, c'est le produit des évolutions récentes du web et surtout du comportement de certains acteurs du web. Et juste, il y a un petit portrait au début du livre qui est un portrait de John Perry Barlow qui faisait partie de ces libertaires du web.
Les fameux du début, ceux dont parle Quentin Jardon.
Exactement, ceux du début. Alors Quentin parle beaucoup des scientifiques qui ont bâti l'outil. Moi je parle de ceux qui sans doute l'ont popularisé et ceux qui étaient persuadés. On parlait donc du cyberespace. Il y a eu une déclaration d'indépendance du cyberespace à un moment donné et cette déclaration d'indépendance, elle disait juste quelque chose, c'est que personne ne s'en mêle et tout ira bien. Et si personne ne s'en mêle, on créera une espèce de conscience universelle,
voilà,
une économie du partage,
un monde meilleur.
Oui, un monde meilleur, et en tout cas l'interconnexion des individus, l'interconnexion des consciences et des intelligences créera quelque chose de meilleur.
Or, vous nous dites que le temps d'attention d'un internaute aujourd'hui est aujourd'hui de 9 secondes. Il faut savoir que le temps d'attention du poisson rouge, c'est 8 secondes. Donc, nous nous rapprochons du poisson rouge.
Nous nous rapprochons d'un poisson rouge dans son bocal, parce qu'à ma grande surprise, j'ai appris que les poissons rouges, entre guillemets, en liberté et en société, pouvaient vivre très longtemps et atteindre 20 centimètres. Donc, nous nous rapprochons d'un poisson rouge atrophié. Nous, parce que la première personne du pluriel, et donc la première personne du singulier, s'applique totalement. Je constate avec effroi ma dépendance. J'essaye de décrire plusieurs symptômes qui nous touchent tous de façon un peu différente, et essayer aussi de les expliquer. Comment sont-ils nés et pourquoi existent-ils ?
Alors, on ne doit s'exposer, selon vous, au web que 30 minutes par jour, car au-delà de ce seuil de 30 minutes, les maladies mentales apparaissent, et vous dites qu'aux USA, on atteint 8 heures de connexion par jour. Donc la maladie mentale est apparue.
En fait, la dépendance est apparue. Les syndromes de maladie mentale, ou en tout cas les pathologies mentales sont apparues. On les connaît, hein. J'en nomme un certain nombre. La nomophobie, la peur d'être sans son mobile, la tasagoraphobie, la peur d'être oublié, le syndrome d'anxiété, etc., etc. Tous ces syndromes dont on constate que nos proches sont atteints, et nous-mêmes sont des produits de l'économie de l'attention numérique.
Alors, je voudrais vous faire écouter à tous les deux un reportage absolument terrifiant qu'on a pu entendre sur France Culture en juin 2017.
Votre histoire, madame, elle est typique de ce que je vois tous les jours, d'un tout petit exposé aux écrans, et le cerveau n'a pas pu se développer normalement, le langage n'a pas pu se développer, et l'interaction. Il a 2 ans, 10 mois, ça fait donc 4 mois que vous avez limité la tablette.
Oui, maintenant je le donne quand je vais donner à la manger.
Pour manger, il a encore besoin de la tablette.
Toujours. D'accord. Sans tablette, il n'arrive pas à manger.
D'accord, madame.
Il n'ouvre pas la bouche.
Est-ce que toi, tu es toujours sur la PS4 et sur Internet ?
Oui.
Oui. Le week-end, quand il n'y a pas école, dis-moi franchement, combien d'heures tu fais ?
Normalement, du matin qu'il réveille jusqu'à la nuit qu'il dort.
Alors, il y a 2 enfants qui sont exposés au web, et apparemment, on ne peut pas dire que ça ait fait d'eux les prototypes d'une vie rêvée. Quentin Jardon, le web est une drogue dure ?
Il est devenu, en tout cas, hein. C'est sûr que... C'est vrai qu'en fait, on peut dire que je ne veux pas pousser vos auditeurs à la consommation, mais je trouve que nos deux ouvrages sont assez complémentaires dans le sens où...
Il faut acheter les deux, c'est ça.
Voilà, je pense qu'il faut vraiment acheter les deux, mais le mien...
peut-être que vos deux éditeurs pourraient s'entendre pour un paquet cadeau.
Ce serait sympa à l'approche des fêtes de Noël, on y repensera.
Bon, on est un peu loin de Noël, là, quand
oui,
même. Hein.
Bon, voilà, il faut anticiper, hein, donc... Non mais je veux dire mon livre c'est plus effectivement c'est l'utopie des débuts et alors c'est intéressant de se dire justement à quel point les fondateurs avaient un certain sens de l'anticipation, est-ce qu'ils auraient pu prévoir ce qui se passe aujourd'hui, tandis que l'ouvrage de Bruno Patino c'est quand même
on
plus
va y venir à votre ouvrage mais on va y venir, mais vous savez que Bruno Patino dit une chose qui est assez juste, il dit l'addiction aux écrans n'est pas technologique, elle est le résultat d'une mécanique de neurosciences.
Oui, en fait, Si on reprend la bande son que vous venez de nous faire écouter, en fait, pourquoi ces enfants sont-ils dépendants de leurs écrans ? Parce qu'en fait, les applications qu'ils utilisent leur font produire de la dopamine. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre à un moment donné, c'est-à-dire ça, c'est basé sur le principe du plaisir. Donc,
plutôt sympathique.
Les neurosciences. Et donc, quand vous êtes petit et que vous surproduisez de la dopamine, la partie du cerveau qui s'occupe, on va dire, du calcul à long terme rationnel n'est jamais motivée parce que c'est celle de la satisfaction à court terme qui l'emporte. Et pourquoi ces applications essayent-elles de nous faire produire de la dopamine ? Pourquoi essayent-elles de nous rendre dépendants ? Parce que leur modèle économique dépend du temps qu'on passe dessus. Et donc, ce qui s'est invité dans l'utopie des débuts que raconte formidablement bien Quentin, c'est le modèle économique. On aurait pu choisir plein de modèles économiques pour les applications du web, abonnement, payant, service. Il se trouve que le modèle économique des réseaux sociaux, des grandes plateformes comme Facebook ou autres, ce modèle est publicitaire. Et le modèle étant publicitaire, il dépend du temps que vous passez sur ces applications-là. Et donc la conquête de notre propre temps est devenue l'enjeu fondamental du web tel qu'il s'est développé ces dernières années.
Alors,
Oui, du coup, oui, pour répondre à votre question par rapport à est-ce que le web est devenu une drogue dure ou est-ce que c'est une drogue dure, bah, de nouveau, ça dépend de l'usage qu'on en fait. On pourrait très bien se passer des réseaux sociaux à partir de ce moment-là. Il y a moins les mécanismes de l'économie de l'attention, la récompense aléatoire, etc., dont on va certainement parler, qui font que bah, ça crée ce sentiment de dépendance. Si je me contente simplement d'aller sur Wikipédia, d'aller sur des sites d'information, etc., je pense pas qu'on en arrive à une telle addiction, en fait.
Alors, en tout cas, on va essayer de se rafraîchir un peu parce que là, c'est trop fort, c'est trop dur. Alors, donc, je vous propose vraiment un joli délice rafraîchissant. C'est Bon Iver, un groupe américain, Hey Ma. I waited outside. I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your mind. Hey, my. Wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on dope. I hope that it all go in a minute. And the past that you know. I wanted all that mine, sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your mind. Hey, ma, hey, ma. Told won't you know you mop it up. Well, you wanted it to hold that. Bien loin du monde virtuel, c'était Bon Iver, le talentueux orchestre du brillant Justin Vernon. Vous voyez que je leur tresse des couronnes. Bon Iver est originaire du Wisconsin. C'est un groupe qui est imbibé de folk, de country, d'americana. Et c'était Hey Ma, un extrait de leur nouvel album qui sortira, sachez-le, Bruno et Quentin, le 30 août.
Christophe Bourseiller, Estivalitude sur France Inter.
Quentin Jardon, Bruno Patino dénonce un monde dans lequel nous sommes asservis par le web, par les portables, dans lequel notre temps est pris en otage, comme il nous l'a brillamment expliqué il y a quelques minutes. Mais vous êtes allé à la source. Vous, dans votre livre Alexandria, vous vous êtes posé une question très simple. Qui a inventé le web? Ça vient d'où ce truc bizarre, Internet? Qui l'a inventé? Alors, qui a inventé le web, Quentin Jardon?
Mais en fait, je me suis rendu compte quand même petit à petit que c'était pas tellement ça la question la plus
intéressante. Ah bah c'est quand même pour moi la plus intéressante.
D'accord, bah alors je vous donne mon point de vue.
Vous pensez que c'est plus intéressant finalement? C'est quand même le sens de votre livre. Hein.
Oui, parce que c'est, je pense que c'est quand même un peu une accroche de dire tiens, il y a une invention remarquable et majeure dans notre histoire et il y a une sorte de flou sur le rôle de chacun des protagonistes majeurs. Bon, on a quand même tendance à dire Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur principal, mais il y a ce deuxième personnage qui est le personnage central de mon livre, Robert Caillot, qui lui, voilà, est dans une sorte de zone grise.
Alors attendez, vous allez un peu vite. Donc il y a deux noms qui se détachent,
oui,
qui sont ceux qui ont inventé. On s'adresse à des gens qui ne sont pas comme vous, tout à fait au courant de tout ça. Donc il y a un anglais
Tim Berners-Lee.
Tim Berners-Lee, qui n'est pas très connu quand même du grand public, même si c'est lui l'inventeur du web, et un belge, Robert Caillot. Et alors l'un a recueilli les louanges du monde entier, c'est Tim Berners-Lee,
voilà,
et l'autre est parfaitement inconnu, c'est Robert Caillot.
Exactement. Alors Tim Berners-Lee, ça dit, je trouve qu'il est relativement méconnu en regard de la grandeur de son invention et de l'impact qu'elle a sur nos vies aujourd'hui. Ça s'explique notamment par sa personnalité, c'est quelqu'un d'assez effacé et assez modeste. Robert Caillot, lui, il est totalement inconnu, aussi parce que ce n'est pas l'inventeur, on va dire, de l'architecture de la technologie du web, tout ce qui est URL, HTTP, HTML, c'est pas lui. Mais par contre, il a joué, en fait, on peut dire que sans Robert Caillot, aujourd'hui, il n'y aurait pas de web, ça c'est certain.
Alors vous dites, Tim a inventé le World Wide Web et Robert en a été l'évangéliste.
Oui, parce que c'est le seul, alors ça c'est quand même assez frappant, c'est le seul qui a cru dans la proposition de Tim Berners-Lee en 1989, on en parlait, l'acte de naissance du web, en fait, qui est une sorte de document d'une vingtaine de pages que Tim Berners-Lee remet à son boss au CERN, hein, le centre pour la recherche nucléaire à Genève. Et en fait, personne au CERN ne comprend vraiment les enjeux, l'intérêt de cette invention. Il y a finalement qu'un homme qui travaille dans un bureau à 10 minutes de celui de Tim Berners-Lee, également au CERN, qui se dit, mais là, il y a quelque chose, et justement, il était en train de réfléchir à un système comparable. Et donc, c'est à ce moment-là que se crée une sorte de binôme, mais qui est tout à fait improbable, parce qu'ils ont des personnalités très différentes. Il y en a un, Robert Caillot, il est en physique expérimentale, l'autre, il est en informatique. Il n'y a rien qui, a priori, les amenait à travailler ensemble. Mais parce que il nourrit cet idéal d'un monde où l'information serait partagée, accessible à tous, etc., ils se mettent à travailler ensemble. Et alors, on a quelques années comme ça, extrêmement difficiles, où en fait, peu de gens comprennent l'intérêt de ce logiciel informatique.
Alors, je voudrais vous faire entendre deux sons. Vous allez voir, c'est tout à fait surprenant, et on voit bien le destin incroyable de ces fondateurs du web. D'abord, on voudrait qu'on écoute un extrait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2012. Écoutez le sort qui est réservé à Tim Berners-Lee.
Revolution is quite adequate.
Mesdames et messieurs, Sir Tim Berners-Lee, inventor du World Wide Web.
Ladies and gentlemen, the inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee.
Devant 50 000 personnes à Londres, Tim Berners-Lee est présenté. C'est le monde entier, c'est en direct en Mondiovision. Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Donc c'est lui qui recueille tous les lauriers, toute la gloire. Et puis maintenant, j'ai un document à vous faire entendre, Quentin Jardon et Bruno Patineau. C'est Robert Caillot, lors d'une conférence donnée au CERN en 2013. Vous allez voir, c'est carrément différent.
Il y avait d'autres systèmes qui étaient beaucoup plus performants, qui étaient là depuis belle lurette, qui étaient plus jolis, qui avaient beaucoup plus de fonctionnalités. Alors pourquoi est-ce que le web les a tous aplatis et tués? C'est parce que le web, simplement parce qu'il est le plus con des hypertextes qui existent, il n'y a qu'une seule fonction, c'est cliquer, il ne souffre pas de l'effet de l'échelle. Et tous les autres le faisaient.
Ah voilà, si le web l'a emporté, si aujourd'hui nous sommes tous dépendants de ce que nous appelons Internet, c'est parce que c'est con. Vous êtes d'accord, Bruno Patineau ?
Oui, en fait, c'est une façon de dire c'est simple. Je pense que c'est quand il le dit, c'est
ça. Il
simple.
Le dit avec une sorte de mépris, alors qu'il en est l'un des créateurs.
Cette petite conférence de 2013, d'ailleurs, Quentin en parle dans son livre, comme sa dernière prise de parole publique, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est assez fascinant de voir le destin croisé, mais pas si différent de ces deux personnes. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Quentin, c'est qu'en fait, il est bâti comme une quête, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'une enquête est une quête dans laquelle il se met lui-même en scène, comme cherchant un personnage oublié de tous.
Essayons de comprendre d'où vient ce mystérieux web qui sculpte nos vies.
Et cherchant ce personnage oublié de tous, finit par comprendre quel est le système auquel à la naissance duquel il a participé.
Alors, ce qui est drôle, c'est que Robert Caillot avait inventé un équivalent du web,
dit-il,
lui avait donné un nom assez curieux qui était Loki, d'après le dieu du mal, je crois, dans la mythologie nordique.
Si non, vous... en fait, Loki, donc, on se retrouve en 1990, 1990, au CERN, et donc, le système de Tim Berners-Lee est en train de prendre forme, il travaille avec Robert Caillot, et il se retrouve à la terrasse du CERN à boire une bière, avec une discussion quand même assez fondamentale, quel nom on va donner à ce fameux système. Et bon, c'est là que Tim Berners-Lee a imposé l'idée de World Wide Web, malgré les réticences de pas mal de ses proches. Mais Robert Caillot, lui, il avait une idée qu'il a même pas osé dire, c'est de baptiser le web le dieu Loki. Et donc, c'est un dieu de la mythologie nordique, mais en fait, qui est plus proche du diable, entre guillemets, enfin, des forces des ténèbres, puisque c'est un messager maléfique qui s'amuse à transformer le message qu'il est censé transmettre. Et en fait, pourquoi Robert pensait à ça? Parce qu'il y avait l'idée de transmission de messages d'un point A.
Il aurait
pu
appeler ça Hermès ou quelque chose comme ça, ça aurait été plus joli.
Mais c'est quand même assez, c'est assez curieux et aussi assez prémonitoire de sa part d'avoir voulu nommer en 1990 Loki, en sachant ce que c'est devenu aujourd'hui le web. Et c'est pour ça que je donne comme nom à la dernière partie de mon livre le dieu Loki, parce que c'est vraiment, voilà, c'est pleinement l'actualité.
Vous pensez que le web est devenu un peu maléfique?
Oui, en fait, oui, l'usage qu'on en fait, parce qu'il y a notamment toutes ces addictions, mais aussi parce qu'il y a eu ce phénomène de concentration qui était en fait, je voudrais juste rebondir sur un truc parce que vous me demandiez, est-ce que voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir. Je vais bondir. Vous me demandez, c'est intéressant de savoir qui a inventé le web. Oui, effectivement, c'est quand même une bonne question, surtout que ça permet de comprendre qu'il y a eu des récupérations de certaines institutions, de certains pays qui voulaient tout d'un coup ça. Approprier la paternité de l'invention. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant de comprendre ces ressorts, ces mécanismes-là.
Reste un mystère, juste en deux mots, c'est pourquoi l'histoire du web est-elle si peu documentée? Pourquoi il a fallu attendre 2019 et que Quentin Jardon, il y a la rencontre de cette histoire pour qu'on le raconte?
Mais parce qu'on est en plein dedans. On est encore dans le moment du Big Bang. 30 ans après, vous mentionnez 30 ans après, 30 ans après l'invention de l'imprimerie, c'était pas encore stabilisé, comme l'ont montré toutes les études. Non, ce qu'on ressent tous, c'est que ces savants dans le livre de Quentin étaient à la recherche d'un système, on va dire, d'interconnexion des ordinateurs et donc des connaissances et des intelligences. Et en fait, pour y participer très modestement depuis 30 ans, enfin depuis 20 ans, 22 ans, 23 ans, ce qui me concerne, on constate qu'on n'arrête pas de déplacer le curseur sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit, c'est un réseau de communication vraiment très puissant. Ah non, finalement, c'est un média. Ah non, finalement, c'est un système d'organisation sociale. Ah ben non, finalement, cette chose-là est en train de donner naissance à des changements anthropologiques majeurs, voire des changements civilisationnels. Donc on a toujours un temps de retard, tous, sur la nature de l'événement. Quentin appelle ça, enfin, il reprend le terme de signe noir en disant que sans doute ça a été le plus grand signe noir qu'on ait.
Signe noir au sens de Taleb, du philosophe Taleb, qui disait l'événement totalement inattendu que personne ne peut prévoir.
C'est-à-dire l'événement dont les conséquences sont totalement inattendues. C'est-à-dire un événement qui apparaît comme un signe parmi d'autres et qui finalement emporte avec lui des conséquences qui sont inattendues. Oui, c'est le cas. Et encore une fois, quand vous parlez de dépendance au web, je voudrais bien, moi, dans la civilisation du poisson rouge, je dis bien, c'est un système. C'est un système économique à l'intérieur du web. Mais le web.
Pas le système informatique qui est derrière.
Mais il n'y a pas de déterminisme technologique à ce système économique.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey.
Alors j'allais vous annoncer une chanson de Stromae, et puis Quentin Jardon est arrivé, et il m'a dit, mais vous savez Christophe, qu'en Belgique, il est quand même belge, Stromae, on dit Stromae. Donc en fait c'était donc un titre pour vous deux, évidemment, Bruno Patino et Quentin Jardon, qui êtes mes invités ce matin, c'était Stromae dans Carmen, une chanson qui critique notre monde, dominé par Twitter, et évidemment, et les réseaux sociaux. En même temps, Bruno Patino, quand vous dénoncez aujourd'hui les excès du web, on pourrait dire un peu que vous mangez votre chapeau, car vous avez été, entre autres, directeur général de France Télévisions, délégué au développement numérique, avant de devenir directeur de France 5. Plus tard, en 2013, vous avez été à nouveau directeur général de France Télévisions, délégué au développement, entre autres, numérique. Vous êtes l'auteur, en outre, de plusieurs livres, Une presse sans Gutenberg et La condition numérique, coécrit avec Jean-François Fogel. Vous avez été un chantre du numérique.
Oui, mais... Je mange mon chapeau. Non, je, enfin.
Vous évoluez.
Non, je fais part de mon inquiétude. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je continue à croire vraiment aux grandes potentialités du numérique. D'abord, c'est la civilisation qui s'ouvre, et c'est à nous qu'il en revient d'en extraire ou d'en bâtir le meilleur. Il y a encore une fois, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, que tout n'est pas écrit, que le futur n'est pas écrit dans les lignes de code de ceux qui ont construit le web. Ce que je crois en revanche, c'est qu'effectivement toutes les potentialités auxquelles nous avons été nombreux, et moi je continue et j'assume totalement le fait de penser qu'à un moment donné la mise en relation de toute la connaissance, de l'information, l'économie du partage, les systèmes collaboratifs, tout cela existe encore dans l'univers numérique, et le World Wide Web le rend possible.
Mais en même temps,
ce qui s'est passé, en revanche, c'est qu'à un moment, moi j'appelle ça l'aiguillage dans le chapitre, c'est que certains grands acteurs se sont comportés, évidemment, mais c'est naturel, comme des prédateurs de ce système-là.
C'est ça.
Et on est face à un système de prédation en ce moment. Alors, les grandes entreprises numériques, ce qu'on peut appeler les GAFA ou autres, sont des prédateurs entre elles, et elles se comportent comme des prédateurs de notre temps. Et bah donc je fais partie, comme tous ceux qui nous écoutent, de ceux dont le temps est en train d'être capté de plus en plus par ces grandes entreprises numériques.
Vous avez compté que vous utilisiez votre smartphone 542 fois par jour.
Non,
ça fait beaucoup, non?
Je le regarde 542 fois par jour. C'est beaucoup trop.
Ça
m'inquiète. Mais encore une fois, je ne m'extrais pas de ça. Je dis attention. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Et ce qui est en train de nous arriver, arriver, c'est quelque chose qui est en train d'arriver au World Wide Web dont Quentin parle, c'est un système de prédation. Mais ce système de prédation, il n'est pas définitif, il se combat et il s'amende, et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce petit livre.
Et justement, Bruno Patino, vous avez une question à poser à Quentin Jardon qui va dans le sens de votre optimisme en fin de compte, parce que votre livre démarre de façon pessimiste pour se clore sur une note optimiste, c'est-à-dire que vous proposez des solutions.
Bah, j'essaye de proposer des solutions, et surtout j'ai dit je crois qu'il nous appartient d'y croire encore, parce que y croire encore c'est pouvoir bouger et c'est pouvoir combattre. Et donc la question que j'avais à poser à Quentin, c'est moi j'ai lu son livre qui parle effectivement de gens dont la création, on est un peu, vous savez, comme ces inventeurs de la bombe atomique qui se disent qu'avons-nous fait, what have we done, la fameuse phrase d'Oppenheimer. Et moi j'essayais de croire si Quentin, lui, y croit encore
aux utopies numériques.
Ou est-ce qu'il y a déjà cru, est-ce qu'il y croit encore, ou est-ce qu'il y croit définitivement pas?
Mais j'ai l'impression d'avoir déjà personnellement, vu mon relatif jeune âge, toujours baigné presque dans ce système de l'économie de l'attention. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ces premières heures et même le début des années 2000 où il y avait encore une énorme foi, une énorme croyance, une exaltation autour de l'invention du web et d'internet. Donc moi j'ai quand même toujours eu un peu un sentiment de désabus et cette impression que effectivement on nous prenait un maximum de notre temps et que socialement ça avait un impact terrible dans mon entourage, auprès de mes amis, de voir cette omniprésence des écrans, ça m'affecte quand même beaucoup, ça nous affecte beaucoup. Et alors autre chose, c'est ça va dans le sens de la question que je comptais vous poser aussi, c'est que on a beau avoir conscience des dangers autour de l'omniprésence des écrans, de l'économie d'attention qui est appliquée par les grandes plateformes et les réseaux sociaux, on a beau avoir cette conscience là et même vous et même moi et pourtant on reste dépendant, on connaît ces mécanismes, on connaît ces trucs et astuces qui sont utilisés par Facebook, Twitter, etc.
Mais on ne peut pas se détacher de la dépendance.
Et on tombe toujours dans ce piège. Alors imaginez pour les millennials, la jeune génération qui n'a connu vraiment que ça dès le berceau, est-ce qu'ils sont pas arrivés trop loin dans cette dépendance, est-ce qu'ils sont pas
incurables.
Ça me fait penser à 1984 de George Orwell où le personnage principal il passe un stade à la fin dans doctrinement tel que pour lui en fait c'est presque bon en fait. Alors est-ce que c'est finalement pas ça le grand danger, c'est que les plus jeunes se disent quel est le problème en fait, à quoi bon contrer ces grandes plateformes si on y trouve du plaisir.
Alors je résume votre question, donc les jeunes sont-ils incurables?
Et parfaitement résumé.
Merci.
C'est un métier.
C'est beaucoup trop long.
Et oui, moi je le crois. C'est-à-dire le dernier chapitre de mon livre s'appelle « Combattre et guérir ». Alors là où je rejoins Quentin, c'est que je ne pense pas que l'autorégulation, c'est-à-dire les entreprises vont le régler par elles-mêmes, fonctionne. Et je ne pense pas que la discipline individuelle suffise. Je pense que combattre et guérir, ce sont de toute façon des mouvements qui doivent être collectifs. Ça passe à la fois par une mobilisation sociale et par un combat politique. Mais je pense, oui, qu'on est arrivé à un moment, on va dire au moment paroxystique de cette économie de l'attention, et que il y a en nous une prise de conscience qui est extrêmement forte que quelque chose ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. Et je pense, oui, que quand on regardera les années que nous vivons aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 15 ans, on se dira qu'on était bien inconscient et bien inconséquent de laisser les choses comme ça se faire sans limite et sans barrière. Elles ne se feront pas naturellement, mais je pense que le moment est venu.
Bruno Patino, je vous ai demandé le son qui vous résumait. C'est une question importante, qu'est-ce qui peut me résumer? Et le son qui vous résume, c'est un extrait du film Carnet de voyage de Walter Salles sur la jeunesse de Che Guevara.
Hasta luego, Mial!
Ciao, amigo!
Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior.
Alors il faut préciser, Bruno Patino, que vous êtes d'origine bolivienne. Hein. Votre père est un compositeur bolivien qui aujourd'hui est réalisateur à Radio France Internationale,
enfin,
c'est ça ?
Il est décédé, ça fait maintenant longtemps, mais il était dans cette maison où il y a Radio France Internationale. Alors, c'est un film, certes, sur la jeunesse du Che, en fait, mais à la limite, peu importe. C'est les carnets de voyage du Che qui ont été mis en image par Salles. Et vous m'avez demandé ce son qui pouvait me résumer. C'est la dernière phrase du film, en fait, dans lequel le jeune Che, en fait, qu'on surnomme Fouzer à l'époque, explique que son voyage initiatique en moto, à pied ou en camion, ou en bateau d'ailleurs, qui l'amène de l'Argentine au Venezuela et qui fait faire remonter pratiquement toute la panaméricaine, l'a changé à jamais et qu'il n'est plus le même lui-même qu'il était auparavant. Et puisqu'il faut parler de soi là en 15 secondes, moi j'ai eu deux fois l'occasion dans ma vie, à 17 ans puis à 21 ans, de parcourir comme ça l'Amérique latine, sac au dos sur des distances presque aussi grandes que celles des carnets de voyage. Hein, et ces deux moments, ces deux voyages longs de plusieurs mois qui m'ont effectivement changé à jamais.
Alors Quentin Jardon, le son qui vous résume, c'est totalement différent. C'est un extrait du film Barry Lyndon.
Ah, vous avez pris ça finalement.
Okay, oui, finalement bien. On a pris celui-là, oui. Écoutez.
Rien ne va plus.
Samuel, je vais sortir prendre un peu l'air.
Oui, madame la comtesse, bien sûr.
Magnifique film de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, pardon, Barry Lyndon, entièrement éclairé à la bougie. Vous savez que ce film a été fait sans aucun projecteur. Tous les plans étaient éclairés à la bougie. Pourquoi ce choix, Quentin Jardon?
D'abord parce que je suis un fan inconditionnel de Stanley Kubrick. J'adore le fait qu'il puisse marier, en fait, qu'il soit à la fois très exigeant sur le plan cinématographique et artistique, et en même temps qu'il ait réussi à conquérir un vaste public parce qu'il touche un langage universel. Donc ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Et ce film en particulier, notamment par ses lumières naturelles, par la bougie, par la beauté des images, et alors et la musique, bien entendu.
Schubert
ici, et puis surtout, c'est une magnifique représentation du coup de foudre. Et alors ça se passe, on le voit pas évidemment, mais ça se passe pendant que des gens jouent à la roulette au casino.
C'est une sorte de casino.
Et je trouvais ça rigolo de parler de ça maintenant, alors qu'on sait que par exemple dans le livre de Bruno Patino, Bruno évoque l'idée des jeux et des casinos parce que ça convoque le concept de la récompense aléatoire, le fait que parfois on gagne, parfois on perd, et c'est un système que utilisent les réseaux sociaux.
C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée moite qui sait te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. C'est comme si ce n'est tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce n'est tu me mets encore. C'est comme si ce n'est tu peux presque le replacer. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchant quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. C'est comme si on s'aimait.
C'est comme si
Drôle de nom pour une fille seule, Christine and the Queens est le pseudonyme de la nantaise Héloïse Letissier, une programmation 5 sens, épices et parfums d'Elsa Béranger.
Vous avez dit que...
Vous avez dit
que... Mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
La télé, elle amène une charge narcissique chez les gens qui sont devant la caméra qui est extrêmement forte et peu en reste indemne. Et donc évidemment, il y a les stars triomphantes, ouais. Il y a les stars montantes et puis il y a les stars entre guillemets déchues.
C'était vous, ça, Bruno Patino.
Mais oui.
Bruno Patino, les écrans, tous ces fameux écrans, ces réseaux sociaux, sont-ils en train de tuer la télé ?
Oh non. Enfin, encore une fois, c'est toujours... C'est très...
L'avion n'a pas tué le train, vous me direz.
Non, mais d'abord, la télé, c'est un écran. Donc, en tout cas, c'est en train de la changer terriblement, fondamentalement. Alors après, la télévision, c'est à la fois le téléviseur, les chaînes de télé, les programmes de télé. Donc, pour aller très très vite, le téléviseur change, il est de plus en plus spectaculaire et il accueille de plus en plus des programmes qui sont pas faits en direct. Les programmes de télévision, en ce moment, nous vivons l'ère des séries. Il y a presque une surproduction de séries, donc c'est une sorte d'âge d'or qui ne durera pas forcément. Et les chaînes de télévision, là, ont un moment un peu plus difficile. Oui, bien sûr, mais pourquoi ? Parce que les chaînes...
C'est momentané, selon vous ?
Pour les chaînes de télévision, non, ouais. C'est pas momentané leur difficulté, parce qu'encore une fois, il faut qu'elles se réinventent dans un système où, auparavant, elles avaient un monopole. Donc, chacun, après, trouve sa voix. À Arte, on a vraiment une voix qui met en valeur les récits, et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous, mais à partir du moment où on part du principe que la façon qu'a une chaîne de télévision de s'exprimer aujourd'hui, c'est à la fois en direct, c'est à la fois en non linéaire, c'est à la fois sur un ensemble d'écrans et un ensemble d'usages qui ne se limite plus au téléviseur.
Quentin Jardon, il y a 20 ans quand vous êtes né, on disait que la télévision rendait abruti. Est-ce que finalement on n'est pas en train de dire la même chose aujourd'hui du web ? Est-ce que finalement on n'a pas le même regard, un peu peut-être un peu pusillanime, on a peur d'Internet ?
Oui, à la différence que le niveau d'intrusion est encore beaucoup plus fort avec le web et singulièrement avec l'apparition des smartphones. La télévision, je veux dire, c'était plus facile à contrôler, notamment pour les parents. L'usage se limitait à la maison, tandis qu'ici, c'est en permanence dans notre poche. Quelque chose qui m'a frappé à ce niveau-là dans le livre de Bruno, c'est de voir que par exemple des employés, des cadres des grandes plateformes comme Facebook ou Twitter vont mettre leurs enfants dans des écoles qui sont sans aucune connexion, sans écran. Donc c'est à la fois cynique et puis ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience totale même au sein des grandes plateformes.
Mais je pense qu'en fait, je reprends à cette phrase, moi aussi, j'avais des parents qui me disaient « regarde pas la télé », etc. Mais et en même temps, vous aviez cette lutte même au sein des gens qui faisaient de la télévision. Est-ce qu'il faut en faire un média émancipateur ? Où est-ce qu'il faut laisser aller filer le média de façon à nous enchaîner à la télévision ? Et il y a eu le même débat sur la radio au début, dans les années 20 d'ailleurs, aux États-Unis, etc. Et je pense qu'encore une fois, parler de l'écran lui-même en disant « il nous rend idiots ou pas », tout dépend de la façon dont on l'aborde. Et le combat pour que ces écrans soient émancipateurs plus que générateurs de servitude, c'est là-dessus que moi j'ai tendance à me focaliser.
Et aussi l'autre différence c'est que entre télévision et web, c'est que évidemment le web, les grandes plateformes ont des outils beaucoup plus puissants pour enchaîner les internautes que la télévision l'a pour les spectateurs.
Quentin Jardon, vous n'êtes pas seulement l'auteur, brillant auteur d'Alexandria, vous êtes aussi un journaliste et vous avez enquêté sur plein de choses dont, alors ça m'a scotché, un village perdu de Calabre dont les habitants parlent un langage unique au monde, vieux de 1000 ans, qui s'appelle le gardiole. J'aimerais qu'on écoute un tout petit peu de gardiole.
La Gardia Piemonte, il est fabuleux et stendu. A Brumore, et la montagne qui gli poi t'aspecchia. A bella lingua qui parvienne, e la storia qui vienne, parvienne le scuole e i turisti di tutto il mondo. Questo è il parlato gardiole.
C'est plus fort que le flamand, ça, non ? Le gardiole, qu'est-ce que vous en pensez ?
Donc ça, j'étais étudiant à l'époque, c'était en 2012, et donc pour ma thèse, pour mon mémoire de fin d'études, j'avais décidé de tourner un petit documentaire de 52 minutes dans ce village, alors qui est perché sur un éperon rocheux face à la mer en Calabre. Et en fait, ce que je trouvais quand même assez fascinant, c'est de se dire, ben voilà encore, en fait, il y a un site qui recense les langues qui sont menacées de disparition ou qui ont récemment disparu. Et en fait, je pense que chaque jour, il y a 7 ou 8 langues dans le monde qui disparaissent. Et le gardiole, en l'occurrence, est menacé de disparition. Alors évidemment, toute une histoire, notamment religieuse, derrière cette langue. Mais c'était quand même incroyable de se dire, ce petit village de 400 habitants, ça fait 1000 ans qu'envers et contre tout, ils perpétuent cette langue que seuls eux comprennent. Mais qu'aujourd'hui, malgré tout, elle est vraiment menacée de disparition, parce que les jeunes ont envie d'apprendre l'anglais, ils s'en vont d'un petit village, etc. Et donc c'est quand même un peu une allégorie, c'est un exemple de ce qui se passe dans une échelle plus grande et dans différents secteurs. C'est l'espèce de création d'une monoculture où on doit tous parler la même langue, tous parler le même langage, consommer de la même manière, etc. Et donc d'avoir cette espèce de îlot de résistance, ça m'a fort parlé. Après, c'est un mémoire de fin d'étude, je suis arrivé là.
C'est bien comme mémoire, c'est une très bonne idée.
J'avais ma seule manière de filmer, c'était un appareil photo réflexe, j'avais même pas de micro externe. Par contre, j'étais venu avec deux énormes pieds de caméra dans une valise qui était hyper encombrant. Et puis j'ai encore voyagé deux semaines en train en Italie avec mes petites cartes mémoire de 16 gigabytes dans ma valise que je pouvais perdre à tout moment. Donc voilà, ça avait encore un côté très amateur, mais c'est le genre de sujet qui me parle très fort et voilà, j'en fais souvent des sujets d'articles.
Alors j'aurais pu ajouter que vous avez également enquêté sur une députée socialiste belge qui s'est convertie au massage tantrique, mais enfin c'est
que
un autre
testé,
sujet
que j'ai testé.
J'imagine, je vous connais, j'imagine que vous avez testé. J'aurais pu vous dire aussi que Bruno Patino, vous souffrez de prosopagnosie, ce qui est une maladie étonnante, puisque on ne reconnaît pas les gens. Vous voyez qui je suis ou pas ?
On ne reconnaît pas les visages.
Vous ne reconnaissez pas les visages. Vous voyez qui je suis ou pas ?
Oui, mais
c'est à la
grâce
voix.
À votre
vous me reconnaissez à la voix. C'est ça. Heureusement que j'ai parlé ce matin. J'ai eu beaucoup de chance. mais on va maintenant passer à la séquence la plus importante, bien sûr, de cette émission.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, Bruno Patino, je vous ai demandé à l'un et à l'autre, bien sûr, quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors, si je dis que vous avez été correspondant du Monde au Chili, si je dis que vous êtes d'origine bolivienne, on se doutera que vos vacances, c'est plutôt en Amérique latine. Et c'était où ?
Alors, j'ai un souvenir de passage de frontière entre le Pérou et la Bolivie en 1982, dans un bus tout à fait normal, régulier. Et on arrive à la frontière 1982, l'année est importante parce que c'est l'année de Coupe du Monde.
Ah oui.
Où la France a été éliminée par l'Allemagne en Coupe du Monde et tout le monde a dit que les meilleures équipes à l'époque avaient été la France et le Brésil. On arrive à la frontière bolivienne, les militaires boliviens, en tout cas celui qui est en charge de la frontière est un peu aviné à ce moment-là, ramasse les passeports, la plupart péruviens ou boliviens dans le bus, mais il y avait trois Brésiliens et un Français. Il nous fait descendre du bus sous les mitrailleuses et décide qu'il va organiser un match de football entre les militaires boliviens et une équipe donc composée
de voyageurs.
Des trois Brésiliens voyageurs du bus et du Français pour nous montrer la supériorité du football bolivien.
Assez voilà. Difficile.
Et donc
vous avez gagné.
Nous avons fait en sorte qu'ils puissent gagner parce qu'ils étaient armés.
C'est très habile.
Mais c'était difficile.
Alors vous, Quentin, c'est rien à voir. C'est l'été 2015 que vous avez passé en Dordogne.
Ah oui. Absolument. Donc généralement, je passe mes vacances en Italie, pays dont je suis très très amoureux, mais là exceptionnellement, c'était en France. Et on a avec cinq amis, on a entrepris de construire un petit radeau qu'on a déposé sur la Dordogne. Et donc on a voilà, c'était des vacances qui sont faites au fil de l'eau. On s'est fait un peu dicter nos vacances par un cours d'eau. Et voilà, c'est très amusant, la grande liberté.
La grande liberté, c'était de partir loin de toute civilisation et loin d'Internet, si j'ai bien compris,
cas,
loin
exactement.
Du web, loin des portables, sur un canoë, donc en Dordogne. Merci beaucoup Bruno Patino et Quentin Jardon, vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Bruno Patino, je rappelle que vous avez publié chez Grasset La civilisation du poisson rouge. Quentin Jardon, votre livre Alexandria est sorti chez Gallimard. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Dans quelques minutes, bien sûr, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante avec ce matin Jean-Michel Frodon. C'est Juliette Médevielle qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparé par Astrid Landon, Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. Notre boutique éphémère à nous, elle réouvre demain dès 9h sur France Inter et je recevrai un célèbre auteur de romans noirs, Franck Tillier, et une journaliste, Jennifer Murzo. Dans quelques minutes, donc, vous retrouverez Laurent Delmas.